Frontières, votre média d'enquête.
Présent sur le terrain.
Vous propose des enquêtes exclusives.
Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux.
Le tout à retrouver dans nos magazines.
Et sur nos réseaux sociaux.
Merci à tous.
Abonnez-vous à Frontières.
Régulièrement, ils se battent à coups de machette.
En France, l'immigration a un énorme impact, de plus en plus visible sur la société.
Ce ne sont que des individus masculins, d'origine du Maghreb, d'Afrique.
Dans certaines villes et certains quartiers de France, les habitants la subissent de plein fouet.
Je ne me vois pas avoir des enfants qui partent tout seuls chercher le pain, traverser un pont comme ça.
Ils agressent les gens pour leur voler leur collier, leur voler leur montre.
Et beaucoup pensent même à quitter les endroits dans lesquels ils vivent depuis pourtant longtemps.
J'aimerais partir de ce quartier tellement c'est l'horreur.
À Lyon, Martin, un père de famille, a vu son quartier résidentiel se dégrader fortement ces dernières années.
En fait, ça a commencé avec une tente, puis deux tentes, puis trois tentes, puis un canapé, puis finalement, on se retrouve avec un bordel.
À la nuit tombée, cet homme à bout de nerfs va nous montrer au cours d'une visite édifiante à quoi ressemble son quartier aujourd'hui.
L'été, il y en a beaucoup plus, hein. c'est un campement. Hein. Là, un chien, est-ce qu'il est attaché, est-ce qu'il n'est pas attaché? Avec nos impôts, ils ont l'eau.
Toujours à Lyon, Baptiste nous montrera la dure réalité de son quartier de la Guillotière.
Il planquait de la drogue, il déféquait tout ça là-bas.
Le quartier de la Guillotière, un endroit pourtant très proche du centre-ville, dans lequel règne du trafic en tout genre et une forte insécurité.
Faut faire gaffe quand même. Je me suis fait agresser là.
Nous nous rendrons également dans un camp de migrants insalubres de la ville.
Il y a plus de 320 personnes qui vivent ici. Voilà, sous la neige, dans le froid.
Dans lequel la mairie écologiste de Grégory Doucet entasse dans des conditions plus que précaires des migrants venus d'Afrique subsaharienne.
Ils n'ont pas de poubelles. Regardez l'état.
Ils ont coupé l'eau.
L'eau a été coupée. À chaque fois, M. Mélenchon, il est toujours en train de prôner pour l'immigration, mais en fait, il ne fait rien.
Enfin, à Paris, nous reviendrons sur l'histoire d'Elia, cette restauratrice qui a vu sa vie brisée à cause d'un camp de migrants installé dans le théâtre de la Gaîté Lyrique qui jouxte son établissement.
Je prends des antidépresseurs le soir parce que je suis à bout, parce que je peux plus en fait subir ça.
Un an après, cette mère de famille vit toujours dans la galère.
Bien sûr, je me sens toujours en insécurité.
À cause de la dure réalité de ce que peut être l'immigration en France aujourd'hui. Si l'immigration est longtemps restée taboue en France, le sujet est aujourd'hui omniprésent dans l'espace médiatique et politique. Au cours de ces élections municipales, il est même devenu l'un des thèmes de préoccupation majeure des Français.
L'immigration aujourd'hui est clairement devenue le fait politique central autour duquel se construit le débat politique en France. C'est le cas pour les échéances nationales comme pour les échéances locales. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que ça vient d'abord des réalités migratoires absolument inédites. Et ça vient aussi du fait que l'immigration n'est pas un sujet isolé de tous les autres, c'est un fait social total qui a des impacts sur tous les aspects de la vie en collectivité, le logement, la sécurité, la santé, l'éducation.
Il faut dire que d'après tous les indicateurs, l'immigration n'a jamais été aussi importante dans notre pays.
Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, c'est vrai, quels que soient les indicateurs qu'on prend. Le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année a triplé en 25 ans. Le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, qui sert à mesurer la dynamique de la population des clandestins, a triplé aussi en 20 ans. Le nombre annuel des demandeurs d'asile a triplé en 15 ans, donc c'est une dynamique d'accélération très forte qu'on retrouve aussi quand on regarde la population immigrée dans son ensemble qui vit en France. Quand on regarde les derniers chiffres du recensement pour 2024, on voit que sur une année seulement, la population immigrée dans le pays a augmenté de 434 000 personnes. C'est autant que sur les trois années précédentes cumulées, c'est trois fois la moyenne d'augmentation des années 2000, c'est 25 fois la moyenne d'augmentation des années 90, donc on est vraiment dans un phénomène d'emballement migratoire.
Un phénomène d'emballement qui se répercute directement sur la part totale d'immigrés dans la population française, qui n'a jamais été aussi élevée.
Aujourd'hui, on peut considérer que la population immigrée stricto sensu se situe autour de 10% de la population française.
Et selon les experts, en rajoutant l'immigration illégale, on arrive à un chiffre jamais vu auparavant en France.
Ça fait aux alentours de 8 millions de personnes.
Face à la crise migratoire qui frappe la France, les villes et les communes de tout le pays se retrouvent en première ligne. Comme ici à Lyon, ville dirigée par l'écologiste Grégory Doucet, qui à l'inverse d'autres dirigeants, ne semble pas prendre ce problème au sérieux. Nous sommes à la Confluence, un nouveau quartier chic de la ville, qui se situe au bout de la fameuse presqu'île. un habitant en colère que nous appellerons Martin, a tenu à nous montrer ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Donc là, on va être à 200 mètres de la Banque de France, à côté des bâtiments tout neufs qui ont été construits dans les nouveaux programmes de confluence. Et sous le pont, là, juste devant nous, en fait, ça a commencé avec une tente, puis deux tentes, puis trois tentes, puis un canapé. Puis finalement, on se retrouve avec, de chaque côté du pont, un bordel. Alors ça nourrit les oiseaux, ça fait venir les rats. Et encore, là, c'est un petit peu rangé aujourd'hui.
L'immigration n'est plus un phénomène qui serait largement concentré dans les tours de la Seine-Saint-Denis ou les tours des quartiers nord de Marseille ou certaines régions post-industrielles. Ça concerne maintenant tout le territoire.
Selon ce riverain, c'est depuis l'élection de Grégory Doucet en 2020 que la situation s'est dégradée.
Ça fait 6 ans que c'est là, que ça grandit. Ça s'arrête pas.
Dans ce quartier où le prix du mètre carré se négocie autour de 5 500 €.
Un appart de 50 mètres carrés dans ce bâtiment-là, par exemple, ça vaut 350, 400 000 euros.
Les espaces verts ont été pris d'assaut par des migrants qui y ont planté leurs tentes.
Il y a encore deux tentes, un début de campement. On sait quand ça commence, on ne sait pas trop quand le camping va s'arrêter.
Un peu plus bas sur les quais, la situation est encore plus catastrophique.
Il y a une zone où de temps en temps, c'est le camping. Je ne sais pas s'ils sont encore là en cette période, mais si, oui, ils sont encore là. Et en plus, ils ont un camping avec une meilleure vue que moi de mon appart. Mais oui, ça pop un peu de partout, ça vient, ça part, mais il y a des zones qui restent. Sous le pont, ça reste, sur les quais ici, ça reste. L'été, il y en a beaucoup plus, hein, c'est un campement. Il y a les tables, il y a les chaises longues, il y a des petites cuisines qui se créent, des petits feux. Et là, normalement, c'est des zones pour venir courir un peu tranquillement. Mais je pense que vous revenez dans une heure, il sera à peine 20h ou 21h30, il n'y a plus personne qui va venir courir ici.
Le quartier est complètement défiguré et cet afflux de migrants a de réelles conséquences sur la vie des habitants.
Je ne me vois pas avoir des enfants qui partent tout seuls chercher le pain, traverser un pont comme ça. Et voilà, mais c'est là et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Un tout petit peu plus loin, à 100 mètres, il y a des jeux pour enfants. Même pas plus envie d'emmener son enfant se balader ici quand j'ai des tentes de partout. C'est la réalité de Lyon et d'un nouveau quartier comme Confluence.
Un peu plus bas, nous arrivons à la gare de Lyon-Perrache.
La deuxième grande gare de Lyon qui dessert Paris directement.
Qui elle aussi a été envahie par des campements de migrants.
Voilà, c'est même plus des tentes là, c'est des cabanons. Hein, c'est. Je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5.
Et vous allez voir que cette visite stupéfiante n'est pas encore terminée.
Là, je vous emmène dans le tunnel qui relie Lyon 2 de la Brasserie Georges. Et là, vous allez voir, c'est un plaisir.
Ici, un véritable camping clandestin s'est installé et semble là depuis longtemps.
Le camping de Perrache, avec son eau. Là, vous allez voir, l'eau a été mise. L'eau, l'évacuation a été mise à disposition pour qu'ils aient des conditions de vie correctes, acceptables. Voilà, on accepte la situation, c'est un peu le mou en fait. On leur met de l'eau, on leur met une poubelle. Un chien, est-ce qu'il est attaché, est-ce qu'il n'est pas attaché, est-ce qu'il y a ses vaccins, est-ce que si un gosse y passe, il va lui sauter dessus. Tout est normal.
En passant devant le robinet qui assure aux migrants d'avoir de l'eau courante, Martin ne peut s'empêcher d'ironiser, même si ce père de famille rit plutôt jaune en ce moment.
Ça, c'est le service français. Avec nos impôts, ils ont l'eau. Nous, on a la sécurité et eux, ils ont l'eau. C'est bien.
Selon Martin, accueillir des êtres humains dans des conditions aussi précaires n'est pas une preuve de grand humanisme, comme certains politiques de gauche voudraient le faire penser.
Nous, en France, on va considérer qu'on accueille des gens et qu'on les laisse dans ces conditions-là et que c'est ça, être humaniste. Ça, c'est ce qui me déplaît le plus, parce qu'au final, on se dit qu'on soit de droite, de gauche, qu'on souhaite juste avoir une ville propre ou avoir des gens qui vivent décemment, il n'y a personne qui est gagnant et tout le monde accepte la situation. Et avec les moyens qu'on a dans des villes comme celle-ci, pourquoi on ne va pas plus loin pour aider ces gens-là?
Et l'homme croise les doigts pour que dans quelques jours, Jean-Michel Aulas gagne son duel face à Grégory Doucet et devienne le nouveau maire de la ville.
Je pense qu'il faut prendre un peu de recul. L'écologie, on a eu notre dose, ils ont fait des travaux, on ne va pas les détruire demain. C'est bon, c'est fait. Maintenant, essayons de voter pour Lyon et pas pour un idéal. Votons pour Lyon, pour une ville où la famille peut s'y retrouver, où les personnes âgées peuvent sortir le soir sans être inquiets, où des jeunes gens, des jeunes filles peuvent se balader, habiller comme ils veulent, sans avoir l'inquiétude de se dire « est-ce que je vais rentrer chez moi en bonne santé ou avec mes bijoux ?» On ne peut pas élire seulement pour moi sur l'écologie, ça ne marche pas. On l'a vu, ça ne marche pas.
Quoi qu'il advienne, dimanche à 20h, Martin et sa famille ont déjà pris une décision radicale.
Et nous, c'est vrai qu'on en a parlé longuement avec mon épouse, et 6 ans à Confluence, c'est terminé. Cette année, on a décidé de bouger. On ne va pas attendre des nouvelles élections et potentiellement une évolution. On va partir à la campagne comme beaucoup d'amis l'ont déjà fait, parce qu'au final, on ne s'y retrouve plus. On ne se voit pas avoir une vie de famille dans des conditions pareilles. Cette année, c'est déjà acté, on part de Lyon.
Et si Martin veut quitter la ville, c'est également parce que dans ce contexte, il vit dans un perpétuel sentiment d'insécurité. Car malgré ce que certains pensent, il existe bien un lien entre insécurité et immigration.
Il y a deux grandes sources pour établir ces faits. D'une part, les données du ministère de l'Intérieur sur les mises en cause, les personnes qui ont été traitées policièrement par la police ou la gendarmerie. Et d'autre part, le ministère de la Justice et notamment l'administration pénitentiaire. Du côté des mises en cause, on sait qu'en moyenne, selon les catégories d'infractions, les ressortissants étrangers sont 1,5 à 4 fois plus représentés parmi les mises en cause par rapport à leur poids dans la population générale. Et du côté de l'administration pénitentiaire, on sait qu'on a environ 23% des individus écroués en France qui sont des étrangers. C'est 3 fois plus que la part des étrangers dans la population générale.
Direction maintenant un autre quartier du centre de la ville de Lyon, fortement impacté par l'immigration, la Guillotière. Baptiste vit ici depuis 30 ans et aujourd'hui, l'homme n'en peut plus.
En fait, dans le quartier Guillotière, il y a 3 places extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de délinquance. Donc là, c'est la place Raspail. Là-bas, vous avez la place Gabriel Péri qui a beaucoup fait parler. Et ensuite, on ira sur la place Mazagran. Ce sont les 3 places les plus terribles du quartier.
À bout de nerfs, ce riverain veut nous montrer à quel point son quartier est aujourd'hui plongé dans la sécurité.
Donc sur cette partie de la place, c'est que une population afro.
Et directement, malgré la pluie qui les a un peu éloignés, l'homme nous met en garde.
Faites gaffe, hein. Faut faire gaffe quand même. Je me suis fait agresser, là.
Faut pas nous agresser, là.
Donc là, en fait, sur cette partie-là, il y a beaucoup de deals de médicaments. Donc ils plantent les médicaments un peu partout, les deals. Des enceintes Bluetooth en permanence, donc les riverains pètent des câbles. Vers l'arbre, qu'on appelle l'arbre à pisse, il y avait beaucoup de végétation, donc ils planquaient de la drogue, ils déféquaient tout ça là-bas. Ils planquent également des armes. Sous ces bancs-là, à plusieurs reprises, j'ai trouvé des couteaux, des machettes. Régulièrement, ils se battent à coups de machette et près d'une aire de jeu pour entendre. Et alors, je vais vous montrer quelque chose, venez voir par là. Ça, c'est les tubes à drogue qu'ils utilisent pour les planquer. C'est-à-dire, ils mettent leur drogue dedans. Donc, c'est logiquement, il y a un petit bouchon. Et après, ils les planquent partout.
Nous sommes revenus dans ce parc la nuit en compagnie d'un policier, alors qu'il ne pleuvait pas. Et notre petite visite accrédite les déclarations de Baptiste.
À la base, c'est un parc pour enfants, la journée. Donc un endroit familial, mais qui le soir est pris d'assaut par les migrants, par tous ces individus qui vont faire du trafic en tout genre. Là, on a un endroit là ici. Plus on s'approche du pont, de l'artère principale, et plus les mecs sont nombreux. Ce ne sont que des individus masculins d'origine du Maghreb, d'Afrique.
Nous avons en France une spécificité très forte de notre immigration, qui est d'avoir de loin l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans le total de la population immigrée. Et c'est une réalité qui s'est plutôt consolidée, renforcée ces dernières années. On a environ la moitié des immigrés qui vivent en France qui sont originaires du continent africain. Parmi ceux-là, 6 sur 10 sont originaires du Maghreb, l'Algérie restant le premier pays d'origine des immigrés en France. Mais un autre phénomène majeur dans ce cadre-là qu'on a pu voir ces dernières années, c'est aussi la poussée de l'immigration originaire d'Afrique subsaharienne. Le nombre d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne qui vivent en France a augmenté de 150% depuis 2006. C'est 3 fois plus que la moyenne de la population immigrée. Donc c'est une dynamique migratoire qui est très forte.
Ce qui désole le plus Baptiste, c'est l'inaction de la mairie écologiste.
Cette place, elle a été complètement invisibilisée par le candidat Doucet. Pendant 5 ans, ils n'ont absolument rien fait. Rien. Et aujourd'hui, ils s'activent pour planter 3 arbres. Les riverains ne sont pas dupes, hein. Ça fait rire tout le monde. On n'est plus sur des espaces verts, on est sur des espaces de drogue, quoi.
Nous poursuivons notre tour par la place Gabriel Péri.
C'est un peu la cour des miracles. Alors là, en fait, c'est tous les mecs qui zonent un petit peu partout dans le coin.
Et en se promenant dans ce quartier, ce qui frappe en premier, ce sont les magasins qui le bordent. Ici, les commerces communautaires comme les kebabs, les barbershops ou encore les boutiques de téléphone ont complètement remplacé les magasins traditionnels.
Il y a un effet de bouleversement démographique dans un certain nombre d'entre elles qui va au-delà même des conséquences matérielles sur le logement, sur les politiques de solidarité, sur l'ensemble des services publics qui peuvent être saturés localement. Il y a un changement aussi de cadre de vie au sens de cadre culturel, des changements de commerce, des changements d'habitude, des changements de tradition, de pratiques culturelles, de pratiques de sociabilité qui pouvaient être ancrées très fortement localement. Et là-dessus arrive effectivement une nouvelle couche culturelle, des couches culturelles apportées par l'immigration qui peuvent remodeler très vite le paysage d'un centre-ville ou le paysage d'un quartier en particulier.
Et plus grave encore que les commerces, à écouter Baptiste, les femmes ne seraient pas en sécurité dans ce quartier.
Moi, je suis un homme, hein. On m'embête pas trop, en tout cas pas sur Péri. Par contre, pour les femmes, c'est un peu compliqué, quoi. Même la maire du 7e, Fanny Dubot, n'ose pas passer. Et elle a dit qu'elle traversait le trottoir pour éviter tout ce qu'elle accepte.
Baptiste nous emmène à présent sur la place Mazagran, un point de deal important de la ville.
Et on va passer par la rue des Enfants. Donc les écolos ont fait plusieurs rues des Enfants dans la ville. C'est plutôt pas mal dans la mesure où ça évite qu'à la sortie de l'école, des gamins se fassent renverser, etc. Sauf qu'à la Guillotière, ça marche pas. Parce que c'est absolument sale, partout, squatté. L'année dernière, il y avait une grosse rixe à la sortie des activités périscolaires. Ils s'étaient battus avec les plaques d'égout. Donc ils se balançaient des plaques d'égout à la gueule alors que les enfants sortaient de l'école.
Ces rixes incessantes entre migrants sont devenues un véritable cauchemar pour les riverains.
Le problème de ce quartier, c'est qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Quand je sors de chez moi, j'essaie toujours de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver en plein milieu d'une rixe. Ils se balancent des bouteilles, ils se balancent des bouts de bois, ils se balancent tout ce qu'ils ont qui leur passe par la main. Et vous, vous êtes là au milieu et vous dites « mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ?»
Et selon Baptiste, les migrants qui ont pris possession de ce quartier sont soutenus par les groupuscules d'extrême-gauche de la ville qui luttent de toutes leurs forces pour que l'endroit reste comme il est aujourd'hui.
C'est-à-dire que les antifas, eux, considèrent que le quartier se gentrifie, donc ils veulent pas de riches, ils veulent que les pauvres soient majoritaires. Alors les pauvres, ça va jusqu'à des mecs qui zonent sans arrêt et qui dealent, etc. Ils agressent les gens pour leur voler leur collier, leur voler leur montre. Ils cassent les voitures pour essayer de récupérer des choses dedans. Et moi, je vis au milieu de tout ça. C'est pas vivable, en fait. Les antifas sont très présents dans le quartier, donc ils passent leur temps à taguer. La police tue, nique la BAC, remplacer la police par des Playmobil, encore c'est gentil. Hein. Et en fait, tout ça parce qu'ils disent soi-disant vouloir lutter contre la gentrification, alors que ce sont quand même des gros connards, quoi. Je suis désolé, mais...
Et aujourd'hui, Baptiste aimerait fuir cette effrayante réalité.
Ils considèrent que toutes les personnes qui ont un logement sont des riches, quoi. Alors qu'effectivement, moi, je vis en logement social et qu'aujourd'hui, j'aimerais partir de ce quartier tellement c'est l'horreur, mais que je peux pas, j'ai pas les moyens. En fait, un F1 dans le quartier, c'est 500 euros, quoi. Vous voyez ? Donc, vous avez une municipalité qui dit « on est la Guillotière à un quartier d'accueil », alors que pour se loger, il faut avoir au minimum 500 euros.
Vous avez des villes où ça se passe plutôt bien, notamment quand ils sont très minoritaires en nombre. Quand ils deviennent majoritaires en nombre, ça ne va plus du tout. Et cet impact va se doubler de tentatives de quitter la ville, parce que quand vous vous sentez minoritaire dans un endroit que vous ne reconnaissez plus les valeurs, les lieux, les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude d'échanger ou de vivre, eh bien, vous quittez.
Pour illustrer ces propos, un autre riverain nous affirme qu'en effet, le quartier est devenu très communautaire et qu'il est fréquemment victime de racisme anti-blanc.
À l'heure actuelle, vivre ici, c'est un enfer. Surtout nous, en tant que blancs, c'est un enfer. Je me fais régulièrement insulter de sale blanc, nous, c'est un enfer.
C'est pas d'accord pourquoi, là, je m'étais baladé ici, sans raison, sans me traiter de sale gouillard, de sale blanc, il y avait zéro raison, tant que j'étais dehors. Quand on nous traite de sale blanc, je sais pas s'il y a très différent quand on traite quelqu'un de sale noir, à part la couleur. Donc en fait, si sale noir c'est raciste, sale blanc, en fait, c'est raciste aussi, c'est l'effet, en fait. Ça veut pas dire que une insulte pour un certain type de personne, c'est pas une insulte raciale et pour d'autres, ça l'est. C'est logique au possible.
Arrivé devant son immeuble, le Lyonnais s'interroge une nouvelle fois sur l'inaction de Grégory Doucet et de ses équipes, qui semblent avoir complètement abandonné ce quartier.
Et la ville fait rien, nous balade depuis 6 ans. Alors ils ont fait des arrêtés anti-enceintes. Là, ils vont faire un code de bonne conduite pour les dealers et les squatteurs. L'année dernière, ils ont financé une asso pour divertir les squatteurs et les dealers. Et le discours ambiant, c'est un peu comme celui de Grenoble, c'est de dire il faut apprendre à vivre avec eux. Alors quand vous avez des dealers qui sont devant votre porte, quand vous avez des mecs avec leur enceinte toute la journée, jour et nuit, quand l'été vous avez des joueurs d'argent qui jouent toute la nuit et qui gueulent, qu'on est sur une place qui résonne énormément, le vivre ensemble avec les dealers et les squatteurs, c'est pas possible, quoi.
La dégradation de ces quartiers interpelle. En effet, que fait le maire de la ville et quel pouvoir a-t-il réellement en matière d'immigration ?
Le pouvoir des maires en matière migratoire, évidemment, il n'est pas central puisqu'on parle de politiques régaliennes qui sont décidées la plupart du temps au niveau de l'État, voire même à l'échelle de l'Union européenne dans certains cas. Néanmoins, des marges de manœuvre existent du côté des mairies.
La première prérogative, c'est l'attribution des logements sociaux. On a vu par exemple Yann Brossat, qui est chargé du logement à Paris, militer pour la préférence immigrée. C'est pas dit comme ça. Parce qu'évidemment, on va vous dire, on veut essayer de loger ceux qui ont le plus de difficultés. Et c'est vrai que parmi ceux qui ont le plus de difficultés, ce sont beaucoup d'immigrés.
À Grenoble, il semblerait que le maire écologiste Éric Piolle ait décidé d'entasser de nombreux immigrés dans le même quartier. C'est en tout cas ce que dénonce Mimoun, un opposant à la municipalité actuelle.
Je suis un habitant des quartiers qu'on appelle les quartiers sud. Bienvenue chez moi, quartier Malherbe, place Charles Dullin.
Depuis que les écologistes ont installé beaucoup d'immigrés dans ces logements sociaux, les habitants ont vu leur quartier se détériorer.
Comment ça se passe ici
Pas bien du tout.
Pas bien du tout.
Ouais.
Ah ouais.
Dès que je trouve un appartement, je pars d'ici parce que c'est pas du tout.
Ça s'est empiré, hein.
Dans les escaliers, ça sent la pisse, c'est vraiment le bordel.
C'est crade, quoi, c'est dégueulasse. C'est
le quartier de une poubelle, on est la décharge de Grenoble. Là, ils jettent tout dehors. Là derrière, pareil. La nourriture et tout. Pardonnez-moi, mais on a des gens qui viennent habiter là. Et on met n'importe qui. Là, ils jettent des poubelles de partout. Elle devient vraiment lamentable.
Ces associations, quand elles font habiter des gens, elles les livrent avec des meubles récupérés. Que ce soit des réfrigérateurs, des gaz, des canapés, j'en sais rien. Ils font le tri chez eux. Et tout ce qu'ils n'ont pas besoin, ça jette. C'est pour ça que tous les jours maintenant, vous avez, où vous voyez une poubelle là, c'est pas une poubelle, hein, c'est une déchetterie.
En accord avec la mairie, des associations gèrent à leur dise les flux migratoires du quartier.
Des associations gauchistes, on va pas dire, faut pas se mentir, hein. Vous avez à peu près une ou deux associations par allée. Et chaque association, elle gère à peu près deux, trois logements. Dans ces logements-là, en fait, c'est des réfugiés, c'est africains, c'est roumains. En fait, ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir ou on leur donne un logement. Mais ce qui aurait été bien, c'est que de dispatcher un petit peu, comme je dis moi. Pourquoi mettre toute la misère du monde sur une place ?
Ce qui est certain, c'est que la politique du logement social, elle relève souvent de choix politiques au sens idéologique du terme. Certaines municipalités font le choix d'aller bien au-delà des 25% de logements sociaux pour des raisons qui sont strictement idéologiques. Est-ce qu'il y a par ailleurs un calcul consistant à envisager que le nouvel électorat amené par ces logements sociaux sera plus favorable ou moins favorable à la municipalité sortante ? Peut-être que ça rentre aussi dans le calcul. En tout cas, il est évident que c'est un choix politique au sens où il pourrait choisir de faire autrement et ça correspond aussi au type de ville qu'ils souhaitent bâtir et au type de population qu'ils envisagent pour leur ville.
Résultat de cette politique, les habitants ne se sentent plus bien dans leur quartier et ceux qui le peuvent souhaitent le quitter.
Si vous voyez la joie qu'il y avait dans ce quartier, mais c'est un truc de... Mais c'est pas parce qu'il pleut, mais c'est d'une tristesse, c'est devenu d'une tristesse incroyable. Regardez ce que c'est devenu, c'est lugubre. C'est quoi ? Si ça, c'est pas un ghetto, je me demande ce que c'est un ghetto. Hein.
Il y a une démarche électoraliste. Plus vous avez de populations immigrées dont une partie va être naturalisée, plus vous aurez de capacité de recueillir un certain nombre de suffrages. On a vu peu à peu la Seine-Saint-Denis basculer dans un système où le nombre d'électeurs immigrés est supérieur au nombre d'électeurs qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Et on le voit pour d'autres villes comme Roubaix.
Une politique de remplacement de la population qui porte ses fruits, puisqu'à Saint-Denis, la France insoumise a remporté l'élection municipale. Et à Roubaix, LFI devrait également gagner dans quelques jours. En matière d'immigration, les maires peuvent donc agir, mais c'est parfois leur inaction qui peut avoir encore le plus de conséquences.
Je suis Elia, la gérante du bistrot de la Gaîté.
Souvenez-vous d'Elia qui a vécu l'enfer l'année dernière, car le centre culturel de la Gaîté Lyrique, qui jouxte son établissement, était occupé par plus de 400 migrants venus d'Afrique subsaharienne.
La mairie de Paris a refusé l'expulsion des migrants. Donc on était dans un quartier qui n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait un squat permanent devant la brasserie, du trafic de drogue, de la violence.
Il y a un an, nous étions venus soutenir Elia. Et en effet, l'atmosphère était explosive.
Pourquoi je ne touche pas à l'appareil?
Moi, j'ai prévenu la préfecture de police.
Quelle préfecture? On s'en fout de la préfecture.
Ah, on s'en fout de la préfecture? Ouais. Et pourquoi? C'est pas eux qui font la loi?
Arrête au cinéma, là. Arrêtez de filmer ici.
Personne n'osait passer. La rue leur appartenait, ils étaient chez eux. Quand je demandais à ce qu'ils se décalent de la brasserie, c'était un refus permanent.
À cause de cette situation intenable, le commerce de cette mère de trois enfants est en danger.
Les clients ne voulaient plus venir, par peur. Ça fait plus d'un an, puisque l'occupation avait commencé en décembre 2024, que je me bats pour sauver mon commerce.
Selon Elia, la direction de la Gaîté Lyrique dirait à tous ses visiteurs et à ses prestataires de ne pas venir boire le café chez elle. Et pousse même certains d'entre eux à écrire des avis ignobles sur Google.
Un an après, je me retrouve encore à avoir des commentaires désobligeants sur ma page. J'avais envie de manger ou boire un café chez les fachos, j'irai volontairement ici. Gérante complotiste et dépourvue de bon sens, en vrai, il y a plein de bons cafés dans le quartier avec une ambiance plus safe, ironiquement, dans la Gaîté Lyrique même. Voilà. Les gens regardent des avis Google avant de se déplacer, c'est comme ça partout. Et avec ce genre de commentaires, malheureusement, ça porte préjudice à mon commerce.
Son entreprise est aujourd'hui dans une situation catastrophique.
Mon propriétaire, M. qui a été assez conciliant avec moi parce qu'il aurait pu m'expulser de la brasserie dès le départ. Du coup, on a trouvé un arrangement pour les dettes de loyer avec lui. Par contre, l'URSSAF, en un an, je leur dois 61 822 euros. Donc les dettes s'accumulent. Quand vous passez de 45 000 euros de chiffre d'affaires à 10 000 euros par mois, forcément, vous ne pouvez plus rien payer. Mais c'est compliqué, on ne peut pas ne pas travailler pendant 10 mois sans conséquence.
Et en plus de ces importants problèmes financiers, Elia vit toujours dans un climat d'insécurité aujourd'hui.
Je me sens encore en insécurité parce que quand je vois la programmation de la Gaîté Lyrique, qui de base est une salle de concert, qui continue les conférences sur l'immigration, les conférences sur la montée de l'extrême droite, bien sûr, je me sens toujours en insécurité.
Tout ne veut plus de moi.
Vous voyez, ça c'est juste, c'est un de mes fans endoctrinés du quartier, c'est ce que je subis tout le temps.
Complètement désabusé, Elia espère faire reconnaître son préjudice par la justice et ainsi se faire indemniser.
Mon avocat, Maître Maxime Thébault, a pris la décision d'attaquer et la préfecture et la mairie de Paris au tribunal administratif. On va avoir une audience, puis après, si aucun des partis se présente, ça sera reporté, et même s'ils doivent indemniser, est-ce qu'ils seront ou pas? On part sur des années de procédure, je pense, sans fin. Et je voudrais que la mairie de Paris et la préfecture trouvent vite une solution avant le tribunal administratif, parce que je ne suis pas dans une situation que j'ai demandée et encore moins méritée. C'est eux qui ont commis l'erreur de ne pas expulser la Gaîté Lyrique, de les garder à l'intérieur. C'est à eux de prendre les pertes financières à leur charge, en fait. Je ne m'en sortirai pas sinon. Je ne m'en sortirai pas.
Autre problème avec l'immigration, les expulsions. La grande majorité des déboutés du droit d'asile font le choix de rester en France de manière illégale, ce qui augmente considérablement le nombre de clandestins, estimé entre 700 000 et 900 000 par le Sénat. L'État reste impuissant face à cette situation, puisqu'à peine 10% des OQTF, obligation de quitter le territoire français, sont réellement appliquées.
C'est évidemment un constat d'échec pour l'État et c'est aussi un constat d'appel d'air pour l'immigration irrégulière, parce que quand il est aussi simple de se maintenir sur le territoire, quand on est dans le seul pays d'Europe qui prévoit un principe d'hébergement inconditionnel, y compris pour les clandestins, c'est ce qui fait qu'on a 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence de l'État qui sont occupées par des clandestins. Quand on est le seul pays d'Europe à offrir une aide médicale d'État avec un panier de soins aussi large et complètement gratuit, évidemment, c'est un facteur d'attractivité spécifique de la France pour l'immigration irrégulière.
Autre bizarrerie de la loi française, les personnes sous OQTF ont le droit de se marier. En 2015, à Béziers, le maire Robert Ménard avait été confronté à ce problème et avait refusé de célébrer l'union d'une ressortissante française et d'un citoyen algérien en situation irrégulière.
Ce monsieur est en situation illégale, il fait l'objet d'une OQTF, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, on ne va pas le marier. Mais elle me dit, c'est obligé, vous êtes dans l'obligation de le marier. À ce moment-là, je saisis tout le monde. Le préfet, le sous-préfet, le ministre, le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, et je leur dis, pardon, je vais être obligé de marier quelqu'un qui est en situation illégale, c'est-à-dire qui, concrètement, ne devrait pas être devant moi. Il me dit, oui, c'est pas... Je dis, vous n'allez pas me mettre dans cette situation. Vous venez, vous l'embarquez et vous le faites retourner dans son pays. Il avait été condamné pour des vols de violence en réunion, enfin bref, tout sauf un petit saint.
Le plus ubuesque dans cette histoire, c'est que pour avoir refusé de célébrer ce mariage, le maire a eu des problèmes avec la justice.
Le comble du comble, c'est que c'est pas lui qui est poursuivi, c'est moi qui suis poursuivi. On me demande d'abord de plaider coupable, c'est-à-dire d'accepter une peine de principe, pas grave, mais pour m'éviter un vrai procès. Je dis, mais c'est juste hors de question, je ne vais pas plaider coupable pour avoir fait un truc de bon sens. Non, je ne marierai pas quelqu'un qui est en situation illégale dans ce pays.
Les maires qui ont refusé de marier des individus sous OQTF, évidemment, on peut tout à fait les comprendre, mais il est vrai que dans l'état actuel du droit, ils sont hors la loi. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, le Conseil constitutionnel a reconnu ce droit au mariage, y compris pour les personnes en situation irrégulière, parce que le Conseil constitutionnel en a fait un principe constitutionnel. Et donc si on veut revenir là-dessus, par exemple, il faut une révision constitutionnelle. Alors ça fait partie des absurdités actuelles de notre droit, qui font que c'est très facile de se maintenir sur le territoire national. Quand on est sous OQTF ou quand on est en situation irrégulière, il existe différentes façons de se maintenir sur le territoire et d'espérer une régularisation. Le mariage peut clairement en faire partie.
Et Robert Ménard n'en a pas encore fini avec la justice. Et si la loi ne change pas, il risque gros.
Et là, je suis dans l'attente d'un procès en correctionnel où je risque 5 ans de prison, 70 000 euros d'amende et l'inéligibilité. Vous vous rendez compte, quand j'ai discuté avec le chef de l'État à la télévision, il me dit, monsieur le maire, c'est vrai, c'est ubuesque. Mais Coco, si c'est ubuesque, tu changes les choses. Le Sénat a voté un texte qui dit qu'il ne faut plus obliger un maire à marier quelqu'un qui est en situation illégale. Ils ne sont pas foutus, ce texte qui a déjà été voté au Sénat, de le faire voter à l'Assemblée nationale. C'est l'impuissance politique. Ou pire, quand il te dit, je vais le faire, il te ment.
Les personnes sous le coup d'une OQTF restent donc très souvent sur le territoire français et pour la plupart dans des conditions très difficiles. Retour à Lyon, où Natacha va nous faire découvrir un camp de migrants insalubres.
Je suis la présidente de l'association Terre Glorieuse et là, je suis venue pour voir mes frères africains des migrants qui vivent dans le campement Châtreux. Il y a au moins plus de 320 personnes qui vivent ici, voilà, sous la neige. Dans le froid.
320 personnes qui viennent pour la plupart d'Afrique subsaharienne.
La Guinée, la Côte d'Ivoire, en plus l'Afrique de l'Ouest, quoi.
Dans ce camp de fortune où vivent également une vingtaine de mineurs, la situation sanitaire est plus que préoccupante.
Il y a les tentes à côté, les gens y dorment. Et puis il y a aussi les déchets. Ils n'ont pas de poubelles. Et ça, c'est des moustiques, ça. Ça donne les moustiques. C'est lamentable. Venez, je vais vous montrer les douches que la mairie de Lyon, premier arrondissement, a installées pour eux. Je viens d'apprendre que l'eau a été coupée. Donc du coup, ils se débrouillent tout seuls. Et puis, ils ont installé les douches. C'est comme s'ils approuvaient le fait qu'il y ait des tentes et qu'ils veulent que ces jeunes gens restent. Regardez l'état.
Ils ont coupé l'eau.
L'eau a été coupée.
Début hiver, bon, ils ont placé des gaz, il y avait de l'eau chaude pendant 3 jours. Et après ça, ils ont dit qu'ils n'ont plus les moyens de mettre des gaz encore, qu'ils n'ont plus d'argent pour acheter de gaz. Bon, c'est resté avec de l'eau glacée, mais on ne pouvait pas se laver.
Lanceuse d'alerte, Natacha lutte depuis longtemps contre ce type d'immigration qui ne fait de bien à personne.
En Afrique, tout le monde pense que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et c'est la raison pour laquelle je lutte contre l'immigration. Et en 2009, j'avais même envoyé un courrier à M. Sarkozy. Et je lui avais même expliqué dans mon courrier qu'il faudra qu'on trouve une solution parce que l'immigration dans les 10 ans ou 15 ans à venir allait être vraiment catastrophique. Ça sera comme un problème de santé publique.
En venant en France, ce jeune homme de 17 ans ne pensait pas vivre dans de telles conditions.
La France encore qui est plus développée, un pays plus développé, C'est impossible que les gens dorment dehors pendant un an. Il y a d'autres qui sont là plus d'un an dans la rue.
Aujourd'hui, Natacha veut s'adresser directement au maire de la ville, Grégory Doucet, qui se définit lui-même comme un humaniste.
Je ne comprends pas que quelqu'un d'humaniste puisse laisser des jeunes migrants de 15, 16 ans, 17 ans dormir sous des tentes, dans la pluie, sous la neige, dans le froid. Je pense qu'il y a certainement une contradiction morale.
Natacha est également remontée contre Jean-Luc Mélenchon et son parti, La France Insoumise.
À chaque fois, M. Mélenchon, il est toujours en train de prôner pour l'immigration, l'immigration, mais en fait, il ne fait rien. Après analyse, je me rends compte qu'il nous utilise pour leur électorat et en réalité, ils ne font rien pour nous. Les LFI, ils n'aiment pas nous, les Noirs, ils nous utilisent.
Le seul espoir pour Natacha aujourd'hui, c'est que Jean-Michel Aulas gagne son duel dimanche face à Grégory Doucet et devienne le nouveau maire de Lyon.
Mais j'ai aussi pu rencontrer M. Aulas. Il est candidat à la mairie de Lyon. J'ai eu à évoquer ce problème avec lui et il m'a promis qu'il va essayer de trouver une solution pour ces jeunes migrants. Comme c'est un homme des paroles, je compte sur lui.
Beaucoup de mineurs isolés vivent dans ce camp de réfugiés. Des jeunes qui affluent vers la France sans leurs parents et que l'État est obligé de prendre en charge.
Ça, c'est un phénomène qui est vraiment devenu majeur ces dernières années. Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance a augmenté de 370% en France entre 2013 et 2024, donc en à peine une décennie. Ce sont des profils très majoritairement masculins qui viennent pour l'essentiel, dans le cas français, d'Afrique de l'Ouest, des pays comme la Guinée, par exemple.
En venant en France, ces mineurs non accompagnés poursuivent tous le même but.
Les mineurs ont très bien compris que la France est une destination privilégiée, d'abord parce que si on s'y installe, on peut faire venir sa famille.
Puis on a aussi des mineurs qui sont envoyés comme précurseurs parce qu'ils sont envoyés par leurs parents, par leur famille, dans l'espoir d'obtenir un statut régulier en France. Quand on est reconnu comme MNA, on est régularisé de droit, et de pouvoir ensuite, plus tard, faire jouer le regroupement familial afin de réussir à faire venir d'autres membres de leur famille. On a aujourd'hui environ 45 000 mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par l'ASE. 20% des places de l'aide sociale à l'enfance sont occupées par des mineurs étrangers non accompagnés. Et donc ça a évidemment des répercussions à la fois budgétaires mais aussi pratiques.
Les répercussions pratiques, les habitants de Châteauneuf-Grasse, petite ville de 3500 habitants près de Cannes, les subissent de plein fouet.
On est devant l'ancien hôtel Campanile qui a été loué à une association qui s'occuper de loger les migrants qui arrivaient en France.
L'ancien hôtel Campanile, le seul établissement du village, a donc été réquisitionné pour loger plus de 80 mineurs isolés.
C'était un hôtel d'à peu près 40 chambres qui ramenait 40 à 50 000 euros par an à la commune, qui a été fermé. On a licencié 7 personnes. Et c'est surtout 40 à 50 000 euros qui ne rentrent plus dans les caisses de la ville, parce que ça ramenait quand même beaucoup de taxes.
Mais au-delà du préjudice financier, les habitants de cette petite ville subissent surtout de fortes nuisances depuis que ces mineurs sont arrivés.
80 jeunes qui arrivent et qui n'étaient pas très bien encadrés, et bien ça crée des débordements. Ces jeunes sont un peu décalés. Quand ils ne vont pas à l'école ou autre, ça fait la fête jusqu'à 3h, 4h du matin. Mais à côté, vous avez des gens qui habitent, qui ont une vie, qui travaillent le matin, qui ont des petits-enfants en bas âge ou qui sont retraités. Forcément, ça ne donne pas une bonne image de ce que peut être l'immigration. Donc vous avez les premiers jardins qui sont collés aux coursives de l'immeuble. Donc quand vous avez des jeunes qui font la fête, ben vous êtes en première loge. Les gens ne veulent rien d'autre, hein. Ils veulent de la sécurité, ils veulent de la tranquillité. Donc si on avait des encadrants qui arrivaient à bien les cadrer, à leur faire comprendre l'importance que ça a de vivre en harmonie, je pense que personne ne s'en plaindrait.
Et des incidents graves sont déjà survenus aux alentours de l'hôtel.
Il y a eu des problèmes de sécurité avec des tirs de pistolets à plomb ou à grenaille ou à billes, on ne sait pas trop, sur la crèche à côté. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de fouilles et autres, donc moi je laisserai la justice parler pour ça. Bon, il y a quand même des liens de cause à effet. Le site n'est pas adapté et on joue avec la vie des gens qui habitent vraiment autour de cet hôtel.
Il y a eu tellement de scandales autour de ces mineurs non accompagnés, dont une partie se retrouve dans la délinquance et même parfois tombe au pouvoir de mafia, que les maires commencent à se méfier.
Sauf que la plupart du temps, ces décisions sont imposées aux maires par le conseil départemental, dont la gestion de ces mineurs non accompagnés est de leurs compétences. En clair, la commune a subi cette décision.
parce que c'est une obligation de loger, de reloger ces mineurs non accompagnés. C'est là que c'est intéressant, c'est d'avoir une discussion avec les communes en disant quelle capacité d'accueil on peut avoir, on peut proposer pour répondre aux besoins du département. Les maires, je pense, doivent être concertés parce qu'ils sont concernés justement par la sécurité, ils ont un devoir de sécurité.
La municipalité est toujours en train d'étudier tous les recours juridiques et institutionnels possibles, mais pour le moment, les habitants de Châteauneuf-Grasse doivent prendre sur eux.
Ce qu'ils veulent, c'est retrouver, pour ceux qui habitent à côté, de la tranquillité. Donc c'est à nous de trouver des solutions pour, un, que le département continue à jouer son rôle dans le social, mais que, deux, nous, on puisse aussi à Châteauneuf proposer des solutions qui nous permettent de retrouver donc de la sécurité et un développement économique pour la commune.